est-ce que toi aussi, tu scannes les aliments quand tu fais tes courses avec l'application Yuka pour savoir si ce que tu manges va te filer un cancer ou si c'est bon pour ta santé? C'est tout à fait possible parce qu'on est 23 millions à utiliser cette super appli. Et voici les secrets de ton appli préférée avec sa cofondatrice. Bienvenue dans Soif de Sens, l'émission des humains qui changent le monde. Chaque semaine, je reçois un invité écolo, féministe ou solidaire pour t'aider dans ta quête de sens. Et aujourd'hui, on accueille Julie Chapon, cofondatrice de Yuka. Salut Julie.
Hello.
Ça va bien?
Super, ravie d'être ici.
Alors bien sûr, on va réexpliquer rapidement ce que c'est Yuka pour ceux qui ne connaissent pas, mais je voulais simplement préciser que une des toutes premières vidéos sur ma chaîne YouTube, c'est sur Yuka, c'est avec toi. C'était il y a 4 ans. Je crois qu'à l'époque, vous étiez encore genre à 800 000 utilisateurs, ce qui était déjà énorme.
C'est possible.
Ouais, c'est clair. Depuis, votre projet a légèrement explosé. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que je n'ai pas envie de te poser les questions habituelles sur la notation, votre modèle économique, l'indépendance, etc. Tu as déjà répondu 1000 fois. Donc, soit allez voir ma vidéo YouTube que je vous mets en description ou juste lisez n'importe quelle interview de Julie. Voilà. Non, aujourd'hui, on va parler un peu plus de l'envers du décor et des secrets d'Yuka. Mais avant de commencer, voilà, est-ce que tu peux réexpliquer rapidement le principe de Yuka au cas où il y a quelqu'un qui nous écoute, qui vit dans une grotte, le plus probable qui est super écolo et qui ne va pas au supermarché, donc il n'a pas besoin de Yuka.
Donc Yuka, c'est une application mobile qui permet de scanner le code barre des produits alimentaires et cosmétiques pour connaître leur impact sur la santé. Et depuis peu, là pour le coup c'est un peu moins connu donc ça vaut le coup d'en parler, depuis maintenant 6 mois, l'application permet également de connaître l'impact environnemental des produits alimentaires. Donc quand tu scannes un produit alimentaire, tu as la note santé qui reste la même et tu as un onglet environnement avec l'éco-score qui est un score qui va de A à E qui te permet de connaître l'impact environnemental de ton produit.
On sent que le pitch, il est bien rodé. Hein. C'est carré, très carré.
Ouais.
Effectivement, le problème auquel vous attaquez à la base, c'est qu'effectivement, on a l'impression qu'il faut avoir fait Polytechnique pour pouvoir décrypter les étiquettes et puis aussi qu'il y a quand même plein de produits. En fait, on nous empoisonne et on n'est même pas au courant, quoi.
Ouais, c'est ça, c'est déjà le fait qu'effectivement il faut s'y connaître et donc il faut se renseigner et voilà, sans avoir fait Polytechnique, il faut quand même être bien renseigné. Et au-delà de ça, c'est qu'il faut y passer énormément de temps en fait. Et donc personne n'a le temps d'aller lire chaque étiquette de chaque produit quand il fait ses courses. Donc l'idée, c'était vraiment de rendre ça plus accessible, plus facile et surtout beaucoup plus rapide.
C'est clair qu'il y a des enjeux évidents autour de la malbouffe, mais... évidemment, c'est un problème de santé publique et effectivement, sur l'aspect environnemental, on va en reparler. On a envie d'avoir cette transparence aujourd'hui en tant que consommateur pour pouvoir décider rapidement. Nuance tout de suite, Yuka, c'est pas le Saint Graal, mais ça permet déjà tout de suite d'avoir un premier avis sur un produit et après de faire des recherches complémentaires par soi-même, quoi.
Complètement. L'appli, on est les premiers à le dire, faut pas la prendre comme ça toute seule. L'appli, c'est un outil qui doit être utilisé parmi une palette d'autres outils. La nutrition et l'environnement, c'est des sujets qui sont très complexes et qui ne peuvent pas être uniquement réduits à une application comme Yuka. Donc c'est pour ça que nous, à côté de l'application, par exemple, on a un blog sur lequel on écrit beaucoup d'articles sur la nutrition pour aller plus loin en fait dans la sensibilisation à la nutrition. Et demain, évidemment, si tout le monde peut se passer du Yuka parce qu'ils ont compris en fait ce que c'était de bien manger, qu'ils n'ont plus besoin d'une appli pour scanner, mais tant mieux en fait. Tant mieux pour nous, on fera autre chose et c'est très bien en fait.
Toi, t'es vraiment l'invité parfaite à faire des réponses courtes et droites au but. Je kiffe, ça va être trop bien. Ok, donc le décor est planté pour ceux qui ne connaissaient pas forcément Yuka ou qui n'avaient pas suivi toutes les évolutions. Aujourd'hui, du coup, c'est 23 millions d'utilisateurs.
Alors en vrai, c'est 25 millions.
Oh là là, mais ça, ok. Entre le temps où j'ai préparé l'interview. Alors, mes chiffres, je sais, il y a quelques semaines, c'était 6 millions de scans par jour. Et en magasin, vous avez fait une étude, et il y a 92% des gens qui reposent les produits mal notés sur Yuka. Forcément, si tu vois un produit qui est super mal noté, je sais pas, qui est en rouge à 10 sur 100, c'est sa note. T'as pas envie de le prendre, surtout si c'est parce qu'il y a des additifs dangereux pour ta santé, quoi.
Ouais, c'est ça. On a fait une enquête auprès de nos utilisateurs et on leur a, en fait, on avait besoin de comprendre dans quelle mesure on contribuait à faire évoluer les choses. Et donc, effectivement, on a 92% de nos utilisateurs qui ont déclaré que effectivement, quand un produit était mal noté, ils le reposaient en supermarché. Et ce qui est super, c'est que c'est ça qui permet de faire bouger les choses. En fait, c'est ça qui permet de faire bouger les industriels parce qu'il y a l'impact sur les consommateurs. Il y a le fait que les consommateurs, du coup, mangent mieux et donc potentiellement sont en meilleure santé, ce qui est quand même une bonne nouvelle. Et il y a l'impact que ça a derrière sur les industriels et donc sur la reformulation des produits. Et ça, c'est aussi une super victoire pour nous, en fait.
Ouais. Du coup, voilà, c'était important pour moi pour montrer un peu le changement d'échelle entre notre première discussion il y a 4 ans et aujourd'hui. Ouais. Mais du coup, au-delà des chiffres, moi, ce que je trouve fou, c'est que vous avez une communauté vraiment très forte et très enthousiaste. Genre, Yuka, c'est l'appli du peuple, quoi. Enfin, c'est vraiment plébiscité. J'ai l'impression que dans la tête des gens, en tout cas, peut-être un peu dans la mienne, juste, je sais pas, Yuka, c'est un peu Élise Lucet dans ton téléphone qui t'aide à faire les courses face aux méchants industriels. Est-ce que tu aurais 2-3 histoires d'utilisateurs sur l'impact que l'appli a eu dans leur vie?
On reçoit beaucoup, beaucoup de témoignages de personnes qui vont nous dire que grâce à Yuka, elles sont vraiment en bien meilleure santé il y a aujourd'hui qu'il y a 3 ans. Parfois, il y en a qui nous envoient, ça peut arriver, qui nous envoient carrément leur bilan de prise de sang pour nous montrer que leurs indicateurs se sont améliorés, etc. Donc ouais, ça, c'est toujours des super nouvelles. Mais c'est vrai qu'on reçoit beaucoup de témoignages de personnes à qui ça a vraiment simplifié la vie, complètement revu leur manière de s'alimenter. Encore une fois, grâce à l'application, mais aussi grâce au blog, en fait, grâce au blog et grâce au livre, qui est aussi un outil complémentaire qui vraiment cherche à juste comprendre c'est quoi bien manger. Et pas juste à te dire tel produit il est bon, tel produit il est pas bon, c'est quoi bien manger au quotidien, comment équilibrer tes repas, qu'est-ce qu'il faut éviter, comment bien choisir tes aliments, etc. Et donc c'est vrai que de voir qu'on arrive complètement à faire changer la façon de s'alimenter d'une personne, c'est toujours hyper gratifiant pour nous, quoi.
Oui, et puis ça peut autant servir effectivement à des personnes diabétiques, à des personnes végétariennes comme moi, ou même, je sais pas, t'as les enfants, je sais qu'ils sont trop fans de l'appli et qu'ils vont aider leurs parents à scanner tous les trucs, et si un truc est rouge, c'est genre non maman, j'en veux plus.
Ouais, ça c'est un truc qu'on n'avait pas du tout anticipé au départ, c'est le public enfant. Et du coup, c'est trop bien parce qu'effectivement, en fait, les enfants deviennent presque prescripteurs, en fait. C'est déjà arrivé de voir des scènes dans les supermarchés où c'est les enfants qui scannent et qui disent non, ça c'est pas bon, on le repose. Ah non, ça c'est pas bon. Les enfants qui d'eux-mêmes reposent des biscuits, des bonbons, enfin, c'est assez drôle.
T'as plus besoin d'être le parent relou qui dit non, je vais pas t'acheter du Nutella, quoi.
Ouais, donc t'as ce côté ludique avec les enfants, et t'as le fait que du coup tu contribues à sensibiliser hyper jeunes les enfants à l'alimentation. Mmh. Et même aujourd'hui, dans notre public, on a vraiment un public, bon, bah forcément avec 25 millions d'utilisateurs, on a un peu de tout, mais on a des personnes, voilà, des personnes très très jeunes, des ados qui ont 15, 16, 17 ans. Et moi je suis quand même impressionnée parce que je me dis qu'à 15, 16 ou 17 ans, moi c'était vraiment loin de mes préoccupations de bien manger, de regarder les additifs, de regarder si le produit était bon ou pas pour ma santé. Et du coup, je trouve ça assez impressionnant aujourd'hui d'avoir des ados qui nous écrivent et qui nous disent c'est super votre appli, ça m'aide beaucoup, voilà, et de se dire que voilà, la prochaine génération va être plus sensibilisée que nous, et ouais ça fait plaisir.
Et parce que vous rendez ça ultra simple, alors qu'à la base, effectivement, c'est ultra compliqué d'avoir accès à ces infos, quoi.
Ouais.
Est-ce que tu sais un peu, même si 25 millions de personnes, forcément, il y a plein de gens différents, mais est-ce qu'il y a qui utilise plus Yuka? Est-ce que c'est plus, je ne me rends pas trop compte, la classe populaire, ou plutôt la classe supérieure qui a fait des études supérieures ou...
Il y a vraiment de tout. Franchement, c'est il y a vraiment. Aujourd'hui, on n'arrive pas à définir un type de personne qui utilise Yuka parce qu'il y a de tout en termes d'âge. Il y a des très jeunes, je te disais là, 15-16 ans, mais il y a des très vieux. Désolé pour le terme. Non, mais on a plein de papis, mamies qui ont plus de 80 ans qui nous écrivent et qui utilisent Yuka, et c'est trop bien.
Ok, je voudrais parler un peu du mot additif. C'est vrai que c'est un mot qui a l'air assez innocent. Tu vois, on a juste ajouté un petit truc. Et moi, c'est vraiment grâce à vous que j'ai réalisé à quel point, en fait, des additifs, ça peut évidemment développer des cancers, ou même juste de l'asthme, des migraines, des problèmes de digestion, des allergies. Enfin, la liste est quand même assez longue.
Ouais.
Et du coup, quand je fais mes courses, souvent, je me dis, mais pourquoi je mangerais ça, en fait? Pourquoi est-ce que j'aurais envie d'avoir des migraines? Non merci, quoi. Et j'arrive pas à rentrer dans ma tête que, enfin, pourquoi c'est à nous de nous assurer qu'on nous empoisonne pas, quoi. C'est peut-être qu'on t'empoisonne, peut-être pas, c'est la surprise, quoi.
Ouais, bah malheureusement, parce que tous ces additifs sont autorisés. Donc à partir du moment où ils sont autorisés, bah c'est à toi, consommateur, d'aller vérifier si vraiment c'est pertinent que ce soit autorisé, etc. Ce qui est pas normal. Hein. Voilà. Et c'est marrant, il y a une étude qui est sortie là, je crois, la semaine dernière, qui dit que on ingère en moyenne 4 kilos d'additifs par an. Ça peut monter jusqu'à 10 kilos pour les personnes qui consomment beaucoup de produits transformés, etc. 10 kilos d'additifs par an, juste d'additifs, quoi. C'est assez hallucinant. Mais voilà, bah ouais, le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est autorisé. Pourquoi c'est autorisé? Bah, pour plein de raisons, hein. Encore une fois, y a des conflits d'intérêts, hein, économiques, financiers, qui font que ces substances continuent d'être autorisées. Ça évolue très doucement. Malheureusement, on sait qu'il faut des années avant qu'une substance problématique soit interdite, des milliers d'études, des milliers de preuves, etc., que bien sûr l'industrie alimentaire va...
Au début, pour être autorisé, c'est genre par défaut, t'es autorisé et il faut l'interdire, ou au début, ils doivent quand même prouver que c'est pas trop dangereux?
Bah, à l'époque, aujourd'hui, il n'y a pas de nouveaux additifs qui font leur apparition. Okay. C'est des additifs qui sont autorisés depuis assez longtemps. Donc aujourd'hui, c'est plutôt de dire, bon, bah, c'est autorisé depuis longtemps, mais est-ce que c'est normal que ce soit autorisé depuis longtemps? Donc après, il y a des réévaluations constantes qui sont faites par les autorités sanitaires. Mais voilà, on peut aussi se questionner sur ces réévaluations, sur les conflits d'intérêts qu'il y a derrière, encore une fois. Il y a des chercheurs qui régulièrement montrent que telle substance, finalement, les institutions on dit que ça posait pas de problème, mais en fait, la manière dont ils ont fait leurs analyses et dont ils ont rendu leurs conclusions est complètement biaisée. Quand tu regardes dans le détail, c'est complètement aberrant. Donc voilà, c'est ça le problème aujourd'hui. Mais la bonne nouvelle, quand même, c'est que on n'est pas obligé d'attendre la législation et l'interdiction de ces substances. En fait, je veux dire, suffit qu'on arrête de les consommer et les industriels les retireront. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui, d'ailleurs. Donc ça, c'est quand même la bonne nouvelle. C'est qu'en fait, on peut faire bouger les choses bien plus vite que la loi ne fera évoluer les choses.
Ouais. Et puis, je pense que dans certains cas, alors je ne sais pas si c'est une majorité ou une minorité, mais effectivement, ce n'est pas toujours évident à 100% que c'est, par exemple, cancérigène ou pas. Et du coup, tu as plein de zones de gris. Et voilà, avant qu'il y ait un consensus scientifique sur un truc. Mais du coup, c'est aussi, OK, à partir de quand est-ce qu'on applique un principe de précaution? Ou c'est est-ce qu'on se dit, on attend qu'il y ait vraiment beaucoup de gens malades, voire des morts, pour l'interdire, quoi?
Bah, c'est ça, c'est que aujourd'hui, nous, on est complètement partisans du principe de précaution. À partir du moment où il y a des doutes sur une substance, elle devrait être interdite. On peut pas laisser sur le marché une substance sur laquelle il y a des doutes. Moi, ça me paraît aberrant. Et d'ailleurs, voilà, une vraie victoire, c'est que là, il y a un additif qui a été interdit l'année dernière en France, qui est le E171. Donc, c'est le dioxyde de titane. C'est un colorant blanc que tu retrouves, sur les Tic Tac, des choses comme ça. Ça fait depuis le début, avec Yuka, quand on s'est lancé, qu'on le met en rouge dans l'application, qu'on dit que c'est un additif qui est à éviter, qu'il y a des risques, etc. Et l'année dernière, victoire, il a fini par être interdit en France, et là, il est en passe d'être interdit au niveau de toute l'Union européenne. Donc, ça montre bien que les substances qui sont sur le marché, elles sont pas toujours sûres. La preuve, c'est que une substance là qui était autorisée jusqu'à il y a pas longtemps, jusqu'à il y a 2 ans, en fait là, elle est en train d'être interdite. Et en fait, ça veut dire que tout le temps où on l'a consommée, en fait, elle était à risque. Ouais. Donc voilà, ça montre bien ce type d'interdiction là qui arrive. Ça montre bien qu'il y a des problèmes aujourd'hui sur les substances autorisées.
Aujourd'hui, du coup, Yuka, c'est dans 11 pays.
12,
voilà, ça va trop vite. Alors moi, j'ai que la liste de 11, c'est effectivement France, Belgique, Suisse, Luxembourg, Espagne, Italie, Allemagne, Grande-Bretagne, Irlande, donc Europe, quoi. Et en dehors de l'Europe, États-Unis, Canada et Australie. Est-ce que tu peux nous raconter un de ces lancements, ou est-ce qu'il y en a un qui a été particulièrement marquant, ou je sais pas, rocambolesque?
Ouais, l'Espagne, ça a été un gros truc. On l'a lancé un peu, ça faisait pas partie de nos plans. Parce que ça nécessitait de tout traduire en espagnol, et mine de rien, c'est quand même un gros boulot, parce qu'on ne se rend pas compte, mais il n'y a pas que traduire l'application, il y a traduire tout ce qui est derrière, tout un tas de choses. Et je sais pas, moi j'avais quand même l'impression que ça allait marcher en Espagne, on recevait quand même quelques messages des Espagnols qui avaient entendu parler du projet, et je sais pas, c'était vraiment une intuition personnelle que l'Espagne ça allait marcher. Et donc j'ai dit à mes deux associés, François et Benoît, je leur ai dit, je sais pas pourquoi, mais l'Espagne, je le sens bien. Et en gros, ils ont, bon, c'était un peu pour me faire plaisir, parce qu'ils voulaient lancer les États-Unis et que moi, j'avais pas envie. Mais du coup, pour me faire plaisir, ils m'ont dit, bon, ok, on va lancer l'Espagne. Et puis, on a lancé l'Espagne, et puis ça a explosé. Mais notre lancement en France, comme tu disais, a été voilà, assez fulgurant. En Espagne, on a fait à peu près x10 par rapport suite au lancement par rapport à ce qu'on a fait en France. Donc c'était assez hallucinant et du coup bah on s'est retrouvé en fait avec plein d'utilisateurs espagnols, sachant que bah bon une partie de l'équipe avait fait espagnol LV2, mais c'est pas non plus une langue qu'on maîtrise hyper bien.
Oui, le sauf que bah, client, du coup, il faut gérer derrière.
Bah voilà, donc tout le monde s'est remis à l'espagnol. On a une prof qui est venue une fois par semaine et passé une heure avec chaque personne en one to one pour faire une petite remise à niveau en espagnol, parce qu'en fait on croulait sous les messages espagnols. Voilà, mais du coup on est hyper content.
Donc, si vous voulez apprendre les langues, allez bosser chez Yuka, quoi.
Ouais, c'est ça.
Et est-ce qu'il y a des différences culturelles que tu observes entre les pays ?
C'est difficile à dire parce qu'aujourd'hui, nous, on gère 12 pays en étant basés en France. Oui. Donc, clairement, on connaît pas hyper bien, pour être tout à fait transparente, on connaît pas hyper bien les marchés sur lesquels on est lancé. Il y a des pays qu'on a lancés, on n'y a jamais mis les pieds. Mais globalement, ce qu'on observe, c'est que les pays qui marchent le mieux, c'est les pays latins où il y a une culture de la bonne bouffe. En gros, notre top 3, c'est France, Espagne, Italie. Voilà. Ouais. Par contre, des pays où ça va pas bien marcher, ça va être par exemple le Royaume-Uni. Voilà. Donc, ma déduction personnelle, et j'ai pas fait une analyse très profonde du sujet, mais c'est quand même que dans les pays où il y a une culture du bien manger, t'as pas envie de manger n'importe quoi, et donc tu fais plus attention. Voilà. Maintenant, comme je te dis, voilà, on connaît pas hyper bien non plus les marchés sur lesquels on est, parce que c'est impossible à notre échelle. On est une équipe de 10 personnes. Donc voilà, mais ça commence aussi à bien marcher aux États-Unis.
Aujourd'hui, vous êtes 10 salariés, donc ça c'est bon. Ce chiffre-là, je l'ai bien. Pour effectivement 25 millions d'utilisateurs, donc voilà, vraiment success story. Vous êtes 100% indépendant.
Ouais.
Est-ce qu'il existe un scénario où un jour un grand groupe rachète Yuka ?
Non, c'est pas possible, et c'est même backé dans notre pacte d'actionnaires, puisqu'on a fait une levée de fonds en 2018. Ils ont l'impossibilité de revendre à un groupe industriel qui serait lié à l'agroalimentaire ou à la cosmétique, ou même de manière plus large, où il puisse y avoir un conflit d'intérêts. Donc non, on a bien prévu ce cas-là.
Génial.
Ouais, et puis dans tous les cas, nous, ça n'a aucun intérêt pour nous. On n'a pas envie de faire tout ça pour revendre un jour à un industriel, donc
oui.
Donc non.
non, ce ne sera pas possible. T'es devenue maman. Félicitations.
Merci.
Vous êtes autour de moi la start-up sociale qui a grossi le plus vite et que j'ai pu voir de près surtout. Comment est-ce que si c'est pas trop indiscret, t'as géré le fait de devenir maman pendant que ta startup continue d'exploser, quoi.
Je pense qu'on a toujours été tous les trois avec mes deux associés sur un rythme de vie assez sain, où on a beaucoup donné à Yuka, mais par contre on n'a jamais oublié de prendre du temps pour nous, prendre du temps pour nos amis, notre famille. Benoît, quand on a lancé Yuka, Benoît il avait déjà 2 enfants, et il en a fait un troisième au tout début de Yuka. Clairement il a toujours fait le nécessaire aussi pour pouvoir consacrer du temps à ses enfants, donc il donnait ce qu'il pouvait à Yuka, et à côté il faisait le nécessaire pour être là pour sa famille. Et voilà, et moi quand je suis devenue maman, de la même manière, hein, j'ai complètement ralenti le rythme. Aujourd'hui c'est sûr que je fais plus du tout les mêmes journées à Yuka que je faisais avant. Quand je suis au bureau, en plus avec les transports, je pars à 17h. Alors après je compense en arrivant très tôt, mais à 17h je suis partie, parce que sinon, je vois pas mon enfant.
Ouais.
Là-dessus, on a toujours réussi à hyper bien concilier. On n'a jamais fait de sacrifice, en fait. Moi, j'ai jamais sacrifié un repas de famille, une soirée avec mes potes, ou quoi que ce soit, pour Yuka. Je pense qu'on a toujours su se dire que Yuka, c'est un peu notre bébé aussi, mais qu'il ne faut pas que ça empiète sur tout le reste autour de nous. Et donc, c'est vrai que nous, on n'est pas du tout dans ce mood de « tu te lances sur un projet, il faut que tu sois à 2000% là-dessus pendant X temps, t'as plus de vie à côté, tu vois plus tes potes, tu vois plus ta famille, tu fais plus rien. Non, nous, ça n'a jamais été le cas.
Ah, mais c'est génial, parce que, ok, je savais pas que vous aviez à ce point-là cette culture d'entreprise équilibre vie pro-perso, donc c'est trop chouette, parce qu'effectivement, moi, on se connaît un peu, mais pas plus que ça non plus, et c'est vrai que j'ai ce souvenir de, du coup, il y a longtemps, d'une journée Ticket for Change où, voilà, c'était en train d'exploser, et vous étiez là, moi, j'étais là, mais, enfin, faut que vous preniez des stagiaires, ou que vous embauchiez quelqu'un, parce que là, vous allez vous cramer, et vous étiez là, t'es sûr et tout, je sais pas, et... Et du coup, c'est trop bien parce que depuis, non seulement vous avez évidemment recruté plein de gens, mais en plus, si vous avez réussi à créer cette culture d'entreprise, c'est chouette.
Ouais, je pense que c'est hyper important. Enfin, moi, je pense que tu peux être efficace sur une semaine de 35-40 heures. Si t'es bien organisé, si t'es bien efficace, t'as pas besoin de bosser 80 heures par semaine. Bien sûr, tu peux bosser 80 heures et bien sûr, tu peux avancer encore plus vite, encore plus. Voilà. Mais voilà.
Sur un autre sujet, alors j'en parle que maintenant parce que j'avais pas envie qu'on en parle pendant des heures, mais forcément, j'ai envie de l'aborder un peu. Vos procès.
Ouais.
depuis des années, vous vous battez avec les lobbies de la charcuterie notamment. Et le conflit, si j'ai bien compris, tourne autour des sels nitrités dans la charcuterie. Où ouais. D'un côté, les industriels disent que c'est nécessaire pour éviter le risque de certaines bactéries pathogènes et notamment de botulisme. Et de l'autre côté, vous êtes là, en fait, d'après l'OMS, c'est un cancérigène probable, donc on applique le principe de précaution. Mais du coup, ils vous accusent de tromper le consommateur en disant que les nitrites sont cancérigènes. Du coup, c'est vrai que c'est cancérigène ou pas ? Que dit la science ?
En fait, c'est les nitrites et les nitrates ingérés qui sont classés comme cancérigènes probables par l'OMS. Okay. Les nitrites et les nitrates tout seuls ne posent pas problème en soi. C'est en fait quand ils sont ingérés et surtout quand ils sont dans la charcuterie que en fait ça va faire un mélange et au contact de dans l'estomac, au contact de plein de choses, etc. C'est là que ça va former des composés cancérigènes. Donc quand ils disent les nitrites en soi ne sont pas cancérigènes, oui, on conteste pas ça. Mais les nitrites dans la charcuterie et après ingérés, c'est là que ça pose problème. Et donc, c'est pour ça que les nitrites et les nitrates ingérés sont classés cancérigènes probables par l'OMS. Et la charcuterie, dans son ensemble, donc toute la charcuterie, est classée comme cancérigène avéré par l'OMS. Donc, c'est la seule catégorie de produits alimentaires qui est classée cancérigène par l'OMS. Alors, il y a l'alcool aussi. Ça.
Personne ne le sait, si.
On essaye de le dire. c'est au même titre, c'est la même catégorie que la cigarette. Pour donner une comparaison, c'est la catégorie 1 de l'OMS, c'est cancérigène avéré. Donc, tu as la charcuterie, tu as la cigarette, tu as l'alcool et tu as plein d'autres trucs, évidemment. Mais en catégorie de produits alimentaires, c'est le seul, la charcuterie. Donc, voilà, on vient quand même nous faire des procès sur des produits où même l'OMS classe toute une catégorie de produits en cancérigène avéré. Alors, bien sûr, après, ils essaient de trouver toute une contre-argumentation pour défendre l'utilisation des nitrites. Comme tu dis, ils disent que ça permet de lutter contre le botulisme. Ah bon ? Et donc, aujourd'hui, tous les jambons où il y a marqué « sans nitrites », ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est des marques qui prennent le risque de refiler le botulisme à leurs consommateurs ? Je crois pas.
Ouais. C'est pas juste le botulisme ? C'est une maladie
C'est une maladie qui, pour le coup, qui est très grave, qui est mortelle, ouais. Qui est liée au développement de bactéries dans un environnement pas sain. Aujourd'hui, il n'y a aucun cas... il n'y a eu aucun cas de botulisme dans des charcuteries industrielles sans nitrite. Ça n'existe pas, il n'y en a pas eu. Donc là, l'argument du botulisme, il est... Le botulisme, c'est vraiment une espèce d'épouvantail qu'ils essayent d'agiter pour faire peur aux consommateurs, pour faire peur au pouvoir public, pour leur dire qu'il faut absolument maintenir l'utilisation des nitrites, alors qu'aujourd'hui, on sait très bien s'en passer. Ouais. On sait très bien s'en passer et plein d'industriels le font.
Et cette histoire de... Du coup, tu dis, selon l'OMS, toute la charcuterie est cancérigène, c'est la charcuterie industrielle ou même la charcuterie où il n'y a pas...
La charcuterie. La charcuterie dans son ensemble. Il ne précise pas. Donc, c'est toute la charcuterie.
Mais du coup, c'est pas forcément les additifs.
Ils expliquent pas les raisons détaillées de pourquoi, mais de la charcuterie, il y a plusieurs problèmes. Il y a le problème du sel, le problème du gras, le problème des nitrites. Non, c'est pas spécifique au sel nitrité, mais ça y contribue, en fait. Mais du coup, toute la charcuterie, nitrite, pas nitrite, dans tous les cas, est classée cancérigène par l'OMS. Alors après, quand ils ont fait ce classement, dans tous les cas, la quasi-totalité de la charcuterie contenait des nitrites. Mais voilà, en tout cas, aujourd'hui, ouais, toute la charcuterie est classée cancérigène avérée par l'OMS.
Oh, c'est chaud. Est-ce que, selon toi, le but du lobby de la charcuterie, c'est de vous noyer sous les procès?
Ouais, je pense que c'est de nous noyer sous les procès, c'est un peu c'est ce qu'on appelle les procédures Bayon, hein, c'est de noyer une entreprise, une asso, voilà, sous les procès pour la miner à la fois psychologiquement, financièrement. Donc ouais, nous, par exemple, on s'est pris 3 attaques coup sur coup, donc en 6 mois. De la FICT, donc la FICT c'est Fédération des industriels de la charcuterie traiteur, donc c'est le lobby de la charcuterie, et de 2 entreprises qui appartiennent à la FICT. Les dossiers qu'on a reçus, les assignations, c'est quasiment des copier-coller avec quelques ajustements en fonction de l'entreprise. Oui, c'est des copier-coller, c'est les mêmes avocats derrière les 3 affaires, et au total ils nous demandaient 1,4 million d'euros de dommages et intérêts. Donc clairement l'objectif est pour moi l'objectif est clairement de nous couler financièrement, de nous couler moralement,
parce leur dommage, l'argent qu'ils doivent perdre à cause de vous doit au moins s'élever à ces montants là quoi.
L'argent qu'ils doivent perdre à cause du fait
qu'ils empoisonnent les gens.
Mais même pas en fait, parce que ce qui est complètement aberrant, c'est que par exemple dans les 2 entreprises qui nous ont attaquées, t'as une entreprise qui s'appelle Noafine, que tu ne connais probablement pas. Noafine, c'est une entreprise qui vend essentiellement des produits à la coupe. Donc, c'est ton jambon dans ton rayon à la coupe. C'est pas du jambon dans ta barquette, voilà. Donc, il n'y a pas de code barre. T'as un code barre, évidemment, en fonction du poids, mais qui a un code barre très spécifique, que Yuka ne note pas, ne reconnaît pas. Donc, on se fait attaquer par une marque dont on ne scanne, dont on ne peut même pas scanner les produits. Donc, bien sûr qu'on n'a aucun impact financier sur cette marque. C'est impossible puisqu'on ne peut pas la scanner. Donc c'est complètement aberrant. Encore une fois, c'est vraiment une tentative de nous bâillonner et de nous couler financièrement.
Et Nico, ouais, vous avez été condamné 3 fois, je crois, par des fabricants de charcuterie pour dénigrement et condamné à verser, je ne sais pas exactement, environ 70 000 euros de dommages et intérêts. Et truc incroyable, du coup, comme vous n'avez pas forcément l'argent, vous avez lancé une cagnotte auprès de votre communauté qui a récolté 400 000 euros. Et je trouve ça vraiment beau parce que ça envoie un message fort aux industriels que voilà, ce n'est pas juste un combat entre Yuka et l'agro-industrie. Les citoyens ne se laisseront pas faire face à leur malbouffe qui nous rend malades, quoi.
C'est génial, et puis ça montre aussi que les lobbies ont beau déployer des moyens financiers importants, parce que bien sûr ils ont bien plus les moyens que nous, tous les citoyens réunis, ça représente un contre-pouvoir face à ces lobbies hyper importants. C'est génial de voir cet engouement et ce soutien. Enfin, c'est sûr que ça nous fait chaud au cœur, au-delà d'assurer un peu notre survie aussi. Et après, je reviens effectivement sur les condamnations. Je précise que dans les condamnations, effectivement, on a dû verser des dommages et intérêts, donc à peu près 70 000 euros sur les 1,4 million demandés. On a été condamné, les dommages et intérêts, c'est pour préjudice moral et réputationnel. On n'a eu aucun dommage et intérêt pour préjudice économique. Alors, dans la condamnation, il y a un truc hyper aberrant, c'est qu'on a dû supprimer de l'application. Dans l'application, quand tu scannes un produit qui a des nitrites, tu as une petite fiche explicative sur les nitrites. On a été condamné à supprimer de cette fiche explicative sur les nitrites l'avis de l'OMS. Voilà. Donc, ce qui est complètement aberrant en termes de liberté d'expression, on n'a plus le droit de mentionner l'avis de l'OMS sur les nitrites. Voilà, c'est pas l'avis du cas. On n'a plus le droit de dire, selon l'OMS, les nitrites et les nitrates ingérés sont classés cancérigènes probables. Donc en termes de liberté d'expression, je suis un peu outrée par cette décision. Et après, par contre, ce qui est positif dans tout ça, c'est que la principale demande de la FICT et des 2 charcutiers, c'était quand même qu'on modifie notre système de notation des nitrites. Voilà. Aujourd'hui, les produits à base de nitrite sont mal notés, etc. Leur principale demande, c'était qu'on revoie notre système de notation pour que les produits à base de nitrite soient bien notés. Ça, ils ont été déboutés. Notre système de notation ne bouge pas. Ils n'ont eu aucun impact sur notre méthode de notation. Et ça, c'est quand même hyper positif parce qu'au final, c'est leur principale demande.
Oui. Donc, c'est paradoxalement, peut-être plus une victoire qu'une défaite, quoi.
Bah, c'est une défaite parce qu'on a été condamné, qu'on a des dommages intérêts, que de devoir supprimer l'avis de l'OMS, c'est quand même une vraie défaite en termes de liberté ouais. d'expression. Mais voilà, c'est pour ça aussi qu'on fait appel. Il faut aussi rappeler qu'on a été jugé devant des tribunaux de commerce.
Voilà. Ça fait quoi ?
Tribunaux de commerce, je ne sais pas si tu vois comment ça fonctionne, mais tu es jugé par des commerçants et des chefs d'entreprise. Tu n'es pas jugé par des magistrats professionnels.
Ok.
Voilà. Donc une affaire qui touche à de la santé publique a été jugée par des commerçants et des chefs d'entreprise. Donc enfin voilà, on peut quand même se poser la question de est-ce que c'est le tribunal de commerce est vraiment le lieu pour juger d'un sujet qui touche à la santé publique. Voilà. Donc là on part en appel et en appel c'est différent, tu es jugé par des magistrats professionnels.
Ah oui, donc ça peut encore être annulé quoi.
Oui, on a bon espoir que ce soit annulé. Ouais ouais.
Et est-ce que tu penses que sans la cagnotte, vous auriez coulé ?
Sans la cagnotte, on avait encore un peu d'argent de côté parce qu'on avait la levée de fonds, parce qu'on était arrivé à l'équilibre financier, etc. Donc on aurait pu. Maintenant, ça nous aurait fait beaucoup de mal puisqu'on n'aurait plus rien eu de côté. On n'aurait plus de trésorerie, donc c'est quand même compliqué. Après, on aurait toujours eu d'autres ressources. Même si aujourd'hui, on n'a pas du tout envie, on aurait pu se dire on refait une levée de fonds. C'est une option voilà. Alors, c'était vraiment la dernière option, enfin vraiment le dernier recours, mais s'il l'avait fallu, on se serait battu dans tous les cas jusqu'au bout pour maintenir pour que Yuka continue d'être viable financièrement. Donc on aurait refait une levée de fonds voilà, aujourd'hui on n'a pas eu à le faire et tant mieux. Parce qu'il y a la cagnotte mais voilà, c'est sûr que ça nous fragilise beaucoup, c'est sûr que ça nous met beaucoup en difficulté, mais voilà, on a beaucoup de ressources aujourd'hui et on se battra jusqu'au bout de ce qu'on peut.
Oui, et puis alors je connais pas le futur, mais peut-être que si ça crée un précédent et que les autres lobbies, s'ils voient qu'ils perdent, que les premiers ont perdu, ils vont moins avoir envie de vous attaquer en justice et...
Ouais, et puis même là, alors aujourd'hui on a été condamné, on verra comment ça se passe en appel, mais même aujourd'hui à ce stade-là, mine de rien, ça leur fait beaucoup de mal aussi parce que ces affaires sur les nitrites ont quand même été hyper médiatisées.
Ouais.
Et du coup, des personnes qui avaient jamais entendu parler des nitrites, forcément, ils en ont entendu parler et puis se sont dit, moi je sais pas trop, je suis pas trop renseignée, mais bon, quitte à choisir du nitrite ou du sans nitrite, après ce que j'ai entendu, autant choisir du sans nitrite.
Oui.
Donc ça a donné un gros coup de projecteur au final sur les nitrites.
Et c'est vous qui l'avez médiatisé particulièrement ou c'est...
Bah non, nous on s'est retrouvés. On s'est retrouvés ce. Ouais ouais. Non bien sûr que quand on a eu notre première condamnation, bien sûr que la FICT et les entreprises se sont empressées d'aller contacter toute la presse en disant Yuka a été condamné. Mais en faisant ça. En disant Yuka a été condamné, en fait, ils ont médiatisé le sujet, ils nous ont permis de nous exprimer et de dire les dangers inhérents aux nitrites.
Ouais.
Et du coup, ils ont permis à la population d'être sensibilisée de plus en plus sur le sujet des nitrites. Et aujourd'hui, c'est rare les gens qui n'ont pas entendu parler des nitrites. Donc, l'un dans l'autre, aujourd'hui, si je dois en retirer quelque chose de positif, c'est qu'au final, ça a beaucoup, beaucoup mis en lumière ce sujet des nitrites. Okay. Et ça, c'est hyper positif, parce que maintenant, tout le monde en a entendu parler.
Mm. Sur un niveau plus perso, j'ai l'impression que, du peu que je vous connais, qu'à la base vous n'étiez pas ultra militant et que vous l'êtes un peu devenu. Est-ce que tu dirais que vous l'êtes devenu par la force des choses et les pressions des lobbies ?
Je sais pas si c'est le terme de militant tout de suite a une connotation hyper, hyper clivante.
Ouais.
À partir du moment où, quand on a lancé Yuka, dans l'application, on a dit que des additifs qui sont autorisés par la loi étaient problématiques, à partir de là, tu peux te dire qu'on est militant dès le début, puisqu'en fait, on va contre des choses qui sont autorisées légalement.
Ouais.
Donc, à partir de là, tu peux te dire qu'on est militant, puisqu'on ne se conforme pas à ce qui est autorisé par la loi. Donc, en fait, il y a quand même un ADN un peu militant depuis le début, parce que sinon, on n'aurait rien dit sur les additifs. Oui. On aurait dit c'est autorisé.
Vous alliez savoir que vous alliez avoir des procès au bout d'un moment, quoi.
Voilà. Et puis, dans tous les cas, quand on a lancé Yuka, à chaque fois qu'on parlait du projet à nos potes, etc., un des premiers retours, c'est, oh là là, mais vous allez vous faire attaquer de toutes parts. Donc, on savait en lançant Yuka que ça allait déranger, en fait. On savait que ça allait déranger. Donc à partir de là, oui, on a toujours eu cet ADN de vouloir faire changer les choses et donc un peu militant. Mais par contre, on est vraiment dans un truc aussi constructif et de dialogue avec les industriels qui le souhaitent et donc pas ceux qui choisissent la voie judiciaire, mais avec tous les autres, on discute, on dialogue, on essaye de leur faire comprendre voilà comment on fonctionne notre système de notation, de leur faire comprendre qu'on n'est pas là pour juste leur taper dessus, mais qu'on est là aussi pour qu'ils s'améliorent, pour les aider au maximum. Ouais. Donc, quand ils cherchent à reformuler des produits, on les accompagne aussi au maximum, on leur donne des outils pour qu'ils puissent simuler leurs notes sur Yuka, okay. etc.
Mais ils vous payent jamais.
Comment ?
Mais c'est jamais rémunéré.
Non, c'est jamais rémunéré. Donc voilà, c'est du bénévolat auprès des marques. Mais c'est très bien parce que si on peut contribuer à ce qu'elles s'améliorent, qu'elles suppriment des additifs, qu'elles réduisent les taux de sel, de taux de sucre, c'est qu'on aura réussi notre mission. Donc c'est pour ça que il y a ce côté un peu militant parce que voilà, mais il y a aussi ce côté dialogue constructif. Nous, on les connaît tous, les gros industriels, on les a quasiment tous rencontrés. On est quasiment en contact tous les jours avec des industriels en fait. Ouais. Donc nous on n'est pas là pour leur taper dessus. On est là pour les aider aussi à s'améliorer, à proposer des meilleurs produits. Donc voilà, c'est pour ça que parfois ce terme de militant qui est hyper clivant me gêne un peu parfois.
Ouais. Ouais, je comprends bien. Et en même temps, je trouve que récemment, je trouve qu'il commence à justement être un peu moins clivant, à faire un peu moins peur, notamment à mon avis, parce que les problèmes sont de plus en plus énormes et du coup, c'est de plus en plus des gens, entre guillemets, normaux, du coup, monsieur tout le monde, madame tout le monde, quoi. Et du coup, ça me plaît bien que ça se généralise.
Voilà. Ah oui, c'est sûr. Ouais, c'est une question de wording. Hein. Le wording en lui-même peut être un peu clivant, même si effectivement, comme tu dis, mais sur le fond de ce qu'il y a derrière, au final, ça me va très bien. C'est quoi, c'est militant, c'est vouloir faire changer les choses, c'est vouloir contribuer à une meilleure société. Bah ouais, au final, on devrait tous être militants, ouais.
Bon, pour ceux qui ne bossent pas dans la Startup Nation, wording, c'est le choix des mots, en gros.
Ouais, pardon.
Alors j'avais déjà acheté votre calendrier de fruits et légumes qui est dans ma cuisine, les fruits et légumes de saison je précise. Ouais. Et c'est vrai que je me servais plus beaucoup de Yuka parce que j'avais déjà scanné tout ce que j'achète, mais comme là justement j'ai déménagé à Lyon, forcément tu changes de tes habitudes de course. Et du coup je me suis payé un abonnement premium en préparant l'interview, donc c'est 15 euros par an si ça vous intéresse, mais parce qu'en fait c'est trop bien, enfin j'avais pas réalisé que parce que t'as un mode hors ligne et donc souvent si là où tu fais les courses ça capte pas, c'est trop chiant. Ouais. Donc là je l'ai testé la première fois la semaine dernière, c'était trop bien. Et aussi du coup tu peux personnaliser tes préférences, donc moi c'est trop bien pour mettre végétarien ou si t'as une allergie spécifique ou même bientôt apparemment il y a une option femme enceinte. Je me dis que ma cousine là, qui était enceinte, c'était le cauchemar pour savoir tout ce que t'as le droit de manger ou pas. Ça va être trop bien ça.
Ouais, effectivement, on essaye dans la version premium d'apporter des fonctionnalités supplémentaires que t'as pas dans la version gratuite. Donc il y a ce que t'as dit, le mode hors ligne, les alertes un peu personnalisables, et puis il y a la barre de recherche qu'on nous demande aussi souvent. Voilà, j'en sais rien, tu veux savoir combien est noté le Coca, mais t'as pas de Coca chez toi, tu tapes Coca-Cola et puis tu vois comme le Coca zéro, le Coca normal, le Coca light, etc. Donc ça c'est pas mal utilisé. Donc voilà, c'est un moyen pour nous de contribuer aussi à notre financement. C'est notre source numéro 1 de revenus, cette application premium. Et on a fait un système de prix au chapeau, c'est-à-dire que quand tu payes la version premium, je sais pas si tu te souviens, t'es sur Android ou sur iOS ?
Sur Android.
Ah, t'es sur Android. Bon, alors le prix au chapeau n'est pas encore sur Android, mais sur iOS et sur web, tu peux choisir le prix que tu veux mettre pour la version premium. Alors il y a un minimum qui est 10 euros par an. Mais ce qui est vraiment pas cher quand même, mais si tu veux tu peux donner plus, tu peux donner 15, tu peux mettre 20, tu peux mettre 50, t'auras pas accès à plus de choses, c'est juste une manière pour toi de contribuer au projet. Et donc ça c'est super, ça marche vachement bien, on a plein de gens qui donnent plus que le minimum en fait qu'ils pourraient payer pour la version premium.
Ah, trop bien. Oui, donc si vous avez Android peut-être et que vous voulez payer en prix libre, allez plutôt sur abonnez-vous sur le site internet quoi.
Ouais, bon, c'est prévu bientôt pour Android, mais sinon en attendant oui on peut passer par le web.
En tout cas, je trouvais ça hyper appréciable parce que, de base, je crois à 1000% à votre vision et, enfin, du coup, tu vois à quel point c'est vraiment drivé par l'intérêt général et que chaque fonctionnalité répond tellement à un besoin. Et c'est hyper kiffant de se dire, non seulement je donne des sous à ce projet parce que j'y crois à fond, mais en plus, chaque fonctionnalité en plus va vraiment servir ma santé personnelle et l'impact écolo, quoi. Et voilà. Donc, ouais. Si jamais, c'est à peu près sûr, mais voilà, il y a des gens qui, si je peux convaincre un petit peu avec ce podcast, certains abonnés de passer à la version premium, j'en suis ravi. N'hésitez pas à me le dire en DM sur Instagram si vous êtes passé à la version premium. Est-ce que tu peux nous parler un peu de l'impact qu'a eu Yuka sur l'industrie? Je sais qu'il y a eu 21 boîtes, je crois, qui ont modifié la compo de leurs produits.
En fait, ça, c'est une étude d'impact qu'on a fait il y a plus de 2 ans, où effectivement, on avait interrogé quelques industriels. Okay. Il y en avait bien plus que 21 à l'époque. Ce que je veux dire, c'est que c'est 21 qui ont accepté de témoigner dans notre mesure d'impact et de dire noir sur blanc, oui, Yuka m'a fait changer la composition de mes produits. C'est très difficile aujourd'hui de te dire exactement l'impact de Yuka. Ce que je peux te dire, c'est que tous les jours, on a des industriels qui nous contactent et qui nous disent, je suis en train de voir la formulation de mes produits pour supprimer tel truc, pour réduire mon taux de sucre, de taux de sel, etc. Donc tous les jours, on en voit passer des grosses marques, des petites marques, etc.
Ça devrait être un établissement public de faire ça, quoi.
Ouais. Mais voilà, en tout cas, nous, on est quand même hyper contents à chaque fois qu'on reçoit ce type de message. Donc après, aujourd'hui, c'est hyper compliqué de le mesurer, et puis en plus c'est hyper compliqué parce que si tu voulais le mesurer en déclaratif, en demandant aux marques combien de produits vous avez changé grâce à Yuka, etc., t'as plein de marques qui vont te dire qui vont être un peu hypocrites et qui vont te dire ah non, mais moi c'est pas du tout grâce à Yuka que j'ai changé la composition de mes produits, j'y travaillais déjà depuis hyper longtemps, c'est
tombé un groupe engagé au moment depuis décennies
voilà, et donc t'en as plein où ça va être compliqué pour elles de dire oui, c'est grâce à Yuka que j'ai changé la composition de mes produits. En revanche, là, on est en train de travailler sur une étude avec 2 chercheurs pour justement réussir à quantifier, à mesurer cet impact. Et là, on peut pas vraiment le faire tout seul. Donc, on travaille avec 2 chercheurs. On espère d'ici quelques mois pouvoir sortir quelques premiers résultats. Et l'idée est vraiment de voir comment a évolué la composition des produits entre le lancement du cas et aujourd'hui. C'était quoi, j'en sais rien, tu vois, c'était quoi le nombre moyen d'additifs dans les produits quand on s'est lancé? C'est quoi aujourd'hui? C'était quoi le taux de sucre moyen dans les biscuits quand on s'est lancé? C'est quoi le taux de sucre aujourd'hui? Donc, vraiment d'aller regarder comment Yuka a impacté la composition des produits. Et donc voilà, donc on travaille avec 2 chercheurs. J'espère qu'on aura des beaux résultats à présenter. Voilà, c'est un sujet sur lequel justement je travaille en ce moment, et qui m'intéresse beaucoup, beaucoup.
Pour finir, on va mettre Yuka de côté 2 secondes. L'émission s'appelle Soif de sens. On va parler un peu de ta quête de sens. Toi, qu'est-ce qui donne du sens à ta vie?
D'un point de vue pro, c'est clairement de me lever le matin et de me dire que je contribue à changer, ne serait-ce que de manière infime, le monde dans lequel on vit.
Mais
je veux dire, il y a des gens qui contribuent à bien plus changer que nous, mais en fait, juste de me dire que j'aurais mis ma petite pierre à l'édifice pour faire changer les choses, en fait. Et de me dire que j'aurais contribué à laisser un monde un peu moins pourri aux générations futures, même si malheureusement on leur laissera quand même un monde pourri, mais voilà, moi c'est ça qui me motive, c'est vraiment de me dire effectivement que j'apporte ma petite pierre à l'édifice quand je me lève le matin.
Comment est-ce que toi, ton rapport au sens, il a évolué avec le temps?
Il s'est amplifié de plus en plus, en étant au cœur de Yuka. En fait, quand t'as le nez là-dedans, ça ne peut que grandir, en fait, cette quête de sens. Au début, il y avait la quête de sens sur le sujet santé, etc. Maintenant, on s'est élargi à la dimension environnementale. Donc, on est aussi aujourd'hui hyper sensibilisé sur tous les sujets environnementaux liés à l'alimentation, hein, puisque c'est vraiment notre cœur de sujet. Ça drive vraiment notre projet, en fait. Quand on fait quelque chose, on se dit, est-ce que ça apporte quelque chose? Est-ce que de développer telle fonctionnalité ou tel truc, est-ce que ça contribue à avoir du sens et avoir un impact sur la société? Et si on se dit, non, c'est juste pour le kiff, c'est juste pour... on ne le fait pas, en fait. Même si ça nous fait envie, on ne le fait pas. Si c'est juste pour le kiff, pour s'éclater, et que ça ne contribue pas à apporter grand-chose.
T'as un exemple de fonctionnalité comme ça que... Vous avez passé à la trappe?
Il y en a plein. J'en sais rien. Tu vois, à un moment, on voulait faire des listes de courses dans l'application. Que tu puisses faire ta liste de courses. On s'est dit, est-ce que faire une liste de courses et simplifier le sujet de faire les courses, c'est cool, hein? C'est une pain de faire les courses, c'est chiant, c'est quand tu peux t'organiser bien, etc. Mais est-ce qu'on continue à changer le monde dans lequel on vit en facilitant le fait de faire ses courses. Non, oui. On fait gagner du temps, on t'améliore un petit peu, voilà. Mais par contre, on contribue pas à faire changer les choses. Donc, ce truc de liste de courses, on s'est dit bon, on laisse tomber, par exemple.
Merci Julie, je me suis régalé.
Merci à toi.
Téléchargez Yuka et prenez la version premium si vous êtes chaud. Et si tu veux plus d'épisodes avec des humains rayonnants comme Julie, eh ben abonne-toi. Et si tu connais quelqu'un qui utilise Yuka ou qui est diabétique, végétarien ou qui a une allergie, parle-lui de ce podcast, ça l'aidera énormément. Ciao tout le monde.